Bonjour, je suis Julie Le Gall.
Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
Passionnés de wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
Le wholesale n'aura plus de secret pour vous.
Dans cet épisode, nous sommes sur le Who's Next, premier salon de prêt-à-porter de l'année 2022. La Fédération Nationale de l'Habillement nous a invités sur son stand pour rencontrer ses membres et nous expliquer son rôle. Excellente écoute! Bonjour Bernadette, bienvenue sur le podcast Wholesale is not dead. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien, merci de me recevoir et bonjour à vous.
Bernadette, nous sommes en janvier 2022 sur le salon du Who's Next, sur le stand de la Fédération Nationale de l'Habillement. Vous êtes présidente de la région Nouvelle-Aquitaine et gérante de deux points de vente au Bousca. Vous allez nous donner votre vision du marché aujourd'hui, mais pour commencer, je vous propose de vous présenter.
Alors, je m'appelle Bernadette Thier, j'ai donc, comme vous l'avez dit, deux points de vente au Bousca. Un qui dépend de la FNH, puisque c'est une boutique multimarque de prêt-à-porter, et j'ai également un concept store déco et accessoires.
Alors, quels sont les noms de ces boutiques? Combien de mètres carrés? Combien d'employés?
Alors, c'est donc pour le prêt-à-porter, c'est Mademoiselle H, c'est une petite boutique qui fait 35 mètres carrés. Et j'ai actuellement une alternante, en fait. Je n'ai plus de salariés. Et le concept store est plus grand. Ça fait environ 120 mètres carrés. Et là, j'ai un salarié.
On est en janvier, début de l'année. Comment ça se passe? Période de soldes, les achats qui reprennent?
C'est une bonne question. Je sais pas ce que je peux répondre dans le sens où moi les soldes c'est pas terrible, entre pas terrible et pas très bien, j'avoue, par manque de fréquentation essentiellement. Voilà. En plus moi je suis le Bousca, c'est la banlieue, on va dire immédiate de Bordeaux pour donner un peu une comparaison, alors pas par snobisme, hein, mais pour comprendre ce que c'est, on va dire c'est le Neuilly de Bordeaux, c'est-à-dire qu'il y a vous avez un trottoir Bordeaux et un trottoir Le Bousca, et c'est un endroit un petit peu plus résidentiel, avec les bonnes écoles, les maisons, etc. Et l'avenue dans laquelle je me situe, on pourrait la comparer à l'avenue du Roule, c'est-à-dire une avenue au milieu de comment dire d'un quartier résidentiel, mais avec beaucoup de commerces, et notamment beaucoup de commerces de bouche. Donc c'est très sympa parce qu'il y a une ambiance village. Mais aussi c'est une clientèle assez récurrente. Voilà, donc c'est un petit peu toujours les mêmes puisque ce sont les gens qui habitent et travaillent dans le quartier. Depuis 2 ans maintenant, nous avons le tramway. Bon, alors c'est pas, faut être honnête, c'est quand même pas la même clientèle que la clientèle voiture. Même si ça va beaucoup mieux, enfin si la fréquentation est beaucoup mieux depuis que les travaux du tramway sont terminés, le quartier a changé.
Et alors vous disiez une clientèle fidèle, quelles sont les marques que vous référencez dans vos boutiques?
Alors moi je travaille avec des marques françaises et quelques marques nordiques. Donc je travaille avec, en français, j'ai American Vintage, Tinsel. Dans les marques nordiques, je travaille avec Mosmos, avec Summum Woman. Dans les français, j'ai aussi Chico Soleil, See You Soon. En fait, j'ai une petite boutique, mais j'ai beaucoup de marques. Je m'en aperçois en vous le racontant.
Et vous les sélectionnez comment ces marques? Vous avez des critères particuliers?
Ouais, je les sélectionne en fonction du style, d'un rapport qualité-prix, essentiellement, et de la tendance, puisque bon, j'ai quand même une boutique assez tendance. Alors même si maintenant elle est un peu moins parce que ça fait longtemps que je suis installée et parce que il faut que je fasse des travaux, mais c'est prévu, mais qui ont malheureusement été reportés en raison du confinement.
Et donc aujourd'hui, Bernadette, nous retrouvons sur le stand de la Fédération Nationale de l'Habillement. On est au sein du salon Who's Next. Quel est votre programme pour le salon?
Alors là, je vais évidemment commencer par aller voir les marques avec lesquelles je travaille habituellement. Moi, de toute façon, je commande rarement sur le salon. C'est plutôt, s'il m'arrive de commander sur le salon, c'est vraiment des marques qui ne seront que sur le salon, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'agent, qu'on n'a pas de showroom, etc. Sinon, moi, le salon me sert plutôt toujours à prendre la tendance, à voir les collections, donc des marques avec lesquelles je travaille, à regarder un peu les nouveautés, à dénicher des nouvelles marques ou des tendances, à voir un petit peu. Voilà, ça me permet d'organiser, on va dire, dans ma tête chez qui je vais commander ou pas.
C'est parce que c'est le début de la saison, donc vous avez besoin de voir ce qui se passe. ou alors c'est parce que le salon n'est pas adapté à la prise de commande sur des gros budgets.
Non, non, c'est vraiment là, c'est un choix personnel où moi je préfère prendre la température d'abord.
On va revenir sur votre autre, on va dire votre autre corde à votre arc. Quel est votre rôle au sein de la FNH ?
Alors, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis présidente de région. Voilà, ça fait un bon moment maintenant, ça fait plus de 10 ans. En fait, moi, j'avais rejoint la FNH parce que, d'abord, je suis très militante dans l'âme. Et surtout, je voulais me rapprocher de mes pairs. J'avais envie d'échanger avec les autres commerçants. Et ça, c'est vraiment, ce que j'y ai vraiment trouvé, parce que maintenant, l'équipe dirigeante, on est devenus amis, évidemment. Et c'est très agréable de pouvoir échanger avec des gens qui vous comprennent et qui ont les mêmes soucis que vous ou les mêmes compétences, voire aussi d'autres compétences. Donc c'est très important de pouvoir échanger avec des gens du même sérail, si je peux dire.
Oui, puis on le disait en off, et je crois que c'est avec vous qu'on en parlait, c'est quand on est en centre-ville, on a d'autres points de vente dans la ville, mais ils sont tellement proches par rapport à la clientèle, on les considère comme des concurrents, même si c'est en toute bienveillance, mais c'est aussi intéressant de pouvoir parler librement d'un centre-ville avec quelqu'un qui est dans une autre ville.
Non, mais absolument, c'est très juste, enfin, faut pas se voiler la face, même si je m'entends très bien avec les boutiques qui m'entourent, à partir du moment où on fait tous du prêt-à-porter, on est fatalement concurrent. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de discuter, d'obtenir des chiffres, des bons plans, etc. avec des gens qui sont dans le même univers que vous, mais qui sont à 500 km ou ailleurs. Là, évidemment, la parole est beaucoup plus libre.
Et donc, pour revenir sur votre rôle concrètement, parce qu'on se pose souvent la question, on entend de Postasseur, on se dit oui, la Fédération Nationale de l'Habillement, quel est le rôle de cette fédération ? Vous, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites au niveau national ?
Alors, le premier rôle de la fédération, évidemment, c'est sa représentativité, c'est-à-dire que nous sommes la seule organisation patronale qui représente les boutiques de mode indépendantes de l'habillement textile. Pourquoi je dis habillement textile ? Parce qu'on n'est pas... Alors ça, c'est lié à notre convention collective. On n'est pas que les boutiques de mode, on est aussi la mercerie, les rideaux, les voilages. Voilà, ça c'est comme ça. Voilà. Alors évidemment, même si la majorité de nos adhérents sont plutôt des boutiques de prêt-à-porter, on représente aussi les autres. Donc voilà, notre première intention, c'est le dialogue social. Voilà, puisque on siège dans les commissions paritaires et patronales et que du coup on défend les intérêts du patronat de notre secteur. Voilà. On a une autre offre qui est que on apporte un service juridique, évidemment du social qui est lié à notre représentativité. On a des accords cadres avec des fournisseurs de notre secteur et évidemment on développe de plus en plus ce genre de choses puisqu'il faut un service. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans l'ère du service et l'ère du service n'est pas que pour les clients, elle est aussi pour les adhérents. Enfin, je veux dire, nos adhérents, entre guillemets, sont des clients dans le sens où on veut les satisfaire et les aider autant qu'on le fait avec nos clients.
Et comment vous faites, Bernadette, pour recruter de nouveaux adhérents sur votre périmètre, sur votre territoire ?
Eh bien, je fais comme pour chercher mes produits, j'ai envie de dire, je source. C'est-à-dire, quand je peux, je me promène. Et puis, évidemment, sur Instagram, où toutes les boutiques sont présentes, eh ben, je repère ceux qui me paraissent être des boutiques clés dans leur ville, soit par leur offre, soit par leur façon d'aborder le digital, ou etc. Même si, c'est plus facile parce que c'est comme ça que je les repère. Mais après... toute boutique est éligible à être adhérent à la FNH, évidemment.
Vous nous parliez de Jane Deboy la dernière fois, qui est rentrée récemment.
Oui, alors là, c'est typiquement un bon exemple, parce que Jane Deboy, c'est quand même une boutique phare de la région bordelaise.
Et française.
C'est-à-dire, en boutique physique, ils sont phares sur la région bordelaise, et en boutique digitale, ils sont phares sur la France, effectivement. Et ça faisait un moment que je disais à notre... commercial ou à la personne qui est en charge des adhérents à la FNH, qu'il fallait absolument que cette boutique nous rejoigne parce que d'abord c'est une très belle réussite et puis ils ont une expertise digitale qui est super importante et moi je trouve que pour que la FNH soit vraiment représentative, il faut aussi que toutes les boutiques qui comptent soient avec nous. Forcément, et donc du coup, j'ai eu la chance donc de déjeuner avec le directeur général Georges Simon que vous avez déjà interviewé, et qui est un type super sur plein de plans. C'est-à-dire d'abord humainement, il est très sympathique et très intéressant, et comme je vous le disais tout à l'heure, il a une expertise de dingue. Et c'est ça vraiment que moi je trouve le vraiment intéressant à la FNH, c'est de pouvoir échanger entre nous, de pouvoir tous nous apporter nos compétences, nos retours d'expérience. Là, par exemple, pendant le confinement, très honnêtement, je pense que si j'avais pas été aussi proche de certains commerçants, moralement, j'aurais beaucoup moins bien vécu la situation. Mais là, le fait qu'on soit qu'on ait développé des relations amicales et professionnelles, on s'est beaucoup téléphoné entre nous, on a beaucoup échangé. En plus de tout le combat qu'on essayait de faire auprès des pouvoirs publics pour obtenir des aides pour notre profession, et ça nous a énormément tenus les uns les autres, ça nous a rapprochés aussi, et ça c'est, enfin je veux dire, c'est finalement plus il y a de digital, plus il y a besoin d'humain quand même, et là on est au cœur de la relation humaine où avoir autour de moi tous ces autres commerçants et à échanger, on a passé des heures au téléphone ensemble et des heures au téléphone avec d'autres boutiques qui n'étaient pas forcément nos adhérents et qui étaient dans une détresse absolue et qu'on a pu écouter, réconforter, conseiller, mais tout ça on a réussi à le faire parce qu'on se tenait entre nous, sinon on aurait tous fini sous Prozac.
Et quels sont les points de détresse justement, les problématiques rencontrées actuellement, qu'est-ce que vous entendez le plus généralement dans ces discussions avec eux?
Le plus compliqué c'est toutes les parts de marché qui sont prises par le digital, qui n'est, même si on doit tous s'y mettre, le e-shop n'est pas forcément adapté à toutes les boutiques. Et puis après, il y a la problématique de gestion du stock, puisqu'on le sait, c'est qui est compliqué dans nos métiers, c'est qu'un stock, ça coûte cher, ça prend de la place, ça se déprécie vite. Donc, on est, et puis comme on n'a pas beaucoup de visibilité, c'est de plus en plus compliqué de gérer son stock.
Bernadette, est-ce que vous avez des conseils aujourd'hui à nous donner si quelqu'un vient vous voir et vous demande comment créer sa boutique indépendante? Quels sont les conseils ou votre vision sur aujourd'hui les nouveaux business du commerce indépendant?
Oui, alors j'aime mieux le côté effectivement vision que conseil parce que ce serait peut-être un peu prétentieux. moi je pense que faut être honnête, le commerce d'aujourd'hui et notamment le prêt-à-porter, c'est plus du tout la même chose qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, si on avait un bon emplacement,
emplacement, oui, on voilà, a souvent voilà. Répété ça.
Il y a 20 ans, si vous aviez un bon emplacement, vous mettiez de la marchandise, ça se vendait tout seul. Maintenant, c'est plus pareil, il faut être bon partout maintenant. C'est-à-dire, il faut avoir le bon emplacement, il faut avoir la bonne sélection de marques, il faut être un bon vendeur, il faut avoir un bon service client, il faut avoir une bonne gestion des réseaux sociaux. Il faut. Donc, c'est de plus en plus compliqué.
C'est plus exigeant.
C'est plus exigeant, ça prend plus de temps, ça demande plus de compétences et on est tous bons et moins bons sur certains sujets. Donc moi, j'aurais envie de dire que un bon moyen, et puis en plus avec la prolifération des grandes enseignes, des boutiques en ligne, des marques, qu'elles soient des NVB ou pas, etc. Enfin, je veux dire, l'offre, elle est pléthorique. Faut être honnête. Donc moi, je pense que le meilleur moyen de se lancer aujourd'hui, même si c'est peut-être un petit peu plus coûteux au départ, c'est de racheter une boutique qui s'arrête parce que la personne part à la retraite ou parce qu'il y a un changement de vie ou parce que quelqu'un qui s'en sort pas, qui y arrive plus. Mais parce qu'au moins, on part pas sur rien en fait. On part pas sur rien. On part quand même sur quelque chose qui existe. On part sur un chiffre d'affaires qui même s'il est petit, a le mérite d'exister. Je pense que pour négocier avec la banque, c'est aussi on a quand même des chiffres à donner.
Voilà,
exactement. Après, on apporte sa vision plus nouvelle, ses idées, ses choses, etc. Mais moi, il me semble que si je devais aujourd'hui monter une boutique, je n'irais pas créer un fonds de commerce. Je rachèterais un fonds de commerce, clairement. Mais c'est ma vision. Je pense que c'est peut-être, je vous dis, un petit peu plus coûteux, mais sur la durée, je pense que ça l'est moins, en fait.
Merci beaucoup, Bernadette,
merci
pour votre
vous.
Temps. C'était super intéressant. Et puis, très bonne saison d'achat.
Merci.
Très bonne saison de vente aussi. Et puis, bon salon.
Et à vous, merci. Et
merci beaucoup, Bernadette.
Et plein de bons podcasts.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast Wholesale is not dead est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, connectez-vous sur Apple Podcasts, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.